Voici donc mon exposé du mois d'octobre qui aura pour objet deux précurseurs de Luther. Nous sommes au XIVe siècle, en effet, on s'approche de cette crise du protestantisme qui sera très grave pour l'Église occidentale. Le premier de ces précurseurs fut un dénommé Wycliffe, qui a vécu de 1330 à 1384. Il était professeur de philosophie à l'université d'Oxford, qui était rivale de celle de Paris. Cet Anglais est représenté comme hautain, pas très sympathique. Il était très attaché au roi Édouard III, qui lui a vécu de 1327 à 1377, pratiquement en même temps que lui, qu'il avait chargé d'une enquête sur les empiétements de l'Église. Wycliffe n'aimait ni la France ni les papes qui, installés en Avignon, lui semblaient ses alliés. En outre, l'archevêque de Canterbury avait confié à des moines un collège qui n'appartenait jusqu'alors qu'à l'université d'Oxford. Wycliffe le ressentit comme un camouflet supplémentaire. Et il en ressentit une amertume spéciale contre les moines, souvent proches du pape. Il alla jusqu'à écrire « Les moines sont des produits de l'enfer. Satan a inspiré les ordres religieux. » Certes, tout n'a pas toujours été parfait dans tous les ordres religieux, mais ce genre d'assertion est complètement stupide. Les premiers ordres religieux, Saint-Benoît, par exemple, datent du 5e siècle. Et il aurait fallu attendre 700 ou 800 ans pour découvrir leur origine démoniaque. Les trois vœux de base, que l'abbé Huvelin compare aux trois clous de la croix, même s'il en avait quatre, chasteté, pauvreté et obéissance, sont des voies vers la sainteté, voies que l'on qualifierait aujourd'hui d'incontournables. Elles n'ont rien de satanique. Remarquons que les trois sont liés à l'humilité, et c'est peut-être le quatrième clou, qui reste un fondement du message du Christ doux et humble de cœur. Wycliffe allait jusqu'à mettre en doute l'autorité de l'Église sous le prétexte que Dieu agit directement sur les âmes. Qu'avons-nous besoin d'intermédiaires comme les prêtres? Cela se retrouvera chez les protestants. On veut rester seul devant Dieu. C'est de l'orgueil à l'état pur. C'est à partir d'une telle opinion que d'aucuns refusent l'intercession des saints et les prières pour les âmes du purgatoire, pourtant attestées déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées. Il niait la communion des saints, expressément mentionnée dans le canon de la messe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aurait-elle menti en disant qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre? Plus profondément, quelle serait la signification de la parole du Christ sur la croix à Saint Jean « Voici ta mère ». La Sainte Vierge serait-elle une mère purement symbolique, une pancarte? Dans cette atmosphère, Wycliffe s'attaqua à quatre points essentiels. Premièrement, la confession. Pour Wycliffe, et aujourd'hui pour beaucoup, la contrition doit suffire. L'homme peut se justifier sans la confession. Pourtant, c'est bien aux apôtres que le Christ a dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ». Certes, la contrition, le regret profond du péché qui déplaît à Dieu, comme on le dit dans l'acte de contrition, est essentiel. Plus que le simple inventaire des fautes dans lesquelles nous retombons avec obstination. En cas de nécessité, mort immédiate ou prochaine, la contrition parfaite est suffisante. Dans la vie de tous les jours, on se doit d'éprouver la crainte de Dieu, moins la peur d'un châtiment que le souci de respecter le moindre de ses désirs comme on le fait pour l'être aimé. Nous avons tous besoin de cet acte d'humilité qu'est la confession pour prendre conscience de notre misère et de la nécessité de l'aide de Dieu, de ses anges et de ses sœurs, pour nous maintenir dans la bonne voie. L'absolution est le remède donné par l'Église pour la rémission de nos péchés lorsque l'âme a consenti à l'humilité de la confession et à l'aveu à haute voix de ses erreurs. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, la dignité des prêtres. En parlant des prêtres dont il ressentait le caractère pécheur, Wycliffe disait « Est-ce par ses mains souillées, par ce cœur attaché aux choses humaines que passera la grâce de Dieu ?» Ces niaiseries ne sont pas assez pures pour transmettre les grâces. Non, pardon. Ces mains ne sont pas assez pures pour transmettre ces grâces et administrer les sacrements. Mais les sacrements n'ont pas été institués pour le sacerdoce, mais pour les fidèles. La grâce passe par la main souillée, la vérité par la bouche impure, mais car ce sont des actes de Dieu, des dons de Dieu, des actes du Christ. L'effet des sacrements est indépendant de la sainteté du ministre qui le transmet. Dans le canon de la messe, la liturgie insiste à plusieurs reprises sur la dignité du célébrant. Dans son traité sur le baptême, saint Augustin affirme que Judas, malgré son âme souillée, a conféré le baptême, quel baptême exactement je ne sais, et sauvé le baptisé. Une seule condition est requise, que l'intention de celui qui administre le sacrement soit conforme avec celle de l'Église. Troisièmement, la hiérarchie ecclésiastique. Wycliffe prétendait que le ministère ecclésiastique n'existe pas dans l'Église primitive. Il est curieux de constater combien de ceux qui s'appellent progressistes proclament qu'il faut vivre avec son temps, combien ces gens sont enragés pour aller chercher leur source dans l'Église primitive, dans les époques les plus lointaines. Pour Wycliffe, il n'y avait au début que des évêques et des diacres. Tous ceux qui avaient le pouvoir étaient prélats. Il prétendait aussi que la papauté avait été inventée par Constantin. Il n'avait pas lu le passage de l'évangile de saint Jean, où après sa résurrection, Jésus confie son troupeau à saint Pierre. En quelque sorte, Wycliffe refuse qu'il y ait des prêtres qui ne soient pas évêques. C'est mettre en cause toute l'organisation de l'Église, comme si on pouvait diriger de la même manière les quelques milliers de chrétiens du 1er siècle et les presque 2 milliards de fidèles actuels. Si le point crucial du sacerdoce est la consécration du corps de Jésus, le pouvoir de l'évêque, a fortiori du pape, est plus étendu, et cela dès les premiers temps de l'Église. Quatrièmement, l'Église composée de justes. Wycliffe disait que seuls les justes composaient l'Église par essence invisible. Au fait, se considérait-il comme faisant partie de l'Église ? Il proclamait « Vous, pape, prélat, fidèle, ne faites plus partie de l'Église si vous êtes en état de péché mortel. Mais qui est juge en la matière si ce n'est Dieu lui-même ? » Il continuait « Ce qui fait l'Église, c'est l'état de grâce. » Et concluait « Puisqu'on ne sait pas où est l'Église, l'autorité ne peut être réclamée au nom de l'Église. Chacun vivra indépendamment, n'ayant rien entre sa conscience et Dieu. » Au fait, sur quels critères le fidèle du rang peut-il en juger ? En quelque sorte, c'est la fin de l'Église, voire de toute religion. Mais rien n'interdit de revenir au paganisme, voire à l'animisme, si ma conscience m'y incite. Satan est un menteur remarquable. S'appuyer sur l'enseignement du Christ pour dévaloriser toutes les religions n'est pas à la portée de tout le monde. À bien réfléchir, la source de tout cela est dans l'orgueil, le péché de l'Éden. Tout juger par soi, sans tenir compte des aides que le Seigneur nous donne, et surtout de notre état de créature devant tout un autre Créateur. Pour les tenants de ces opinions, nous n'avons plus besoin de conseils, nous jugeons tout par lui-même, décidant du bien et du mal. Décider du bien et du mal, c'est l'erreur qui est sans cesse renaissante. Il ne manque jamais d'esprits qui, se croyant supérieurs, bien décidés à vivre indépendamment, choisissent librement leurs critères de vérité, leurs options éthiques. Les papes désignent actuellement cette aberration sous le nom de relativisme. Le deuxième personnage est Jean Hus, 1369-1415, un petit peu plus tardif. Il ajouta aux discussions théologiques une forte nuance politique. Jean Hus était un Tchèque passionné, patriote, convaincu, opposé à la domination des Habsbourg en pleine expansion. Cela se ressent encore de nos jours. En visite touristique à Prague, j'ai bien senti que notre guide n'était pas du parti catholique. Elle a refusé de nous mener à l'église où est honoré l'enfant Jésus de Prague, une dévotion pourtant bien touchante. Si la partie tchèque est souvent teintée d'esprit de révolte, la Slovaquie est restée profondément catholique. La scission de la Tchécoslovaquie, cette invention éphémère de Clémenceau, était inévitable. À l'opposé de Wycliffe, Jean Hus était attachant. C'était un orateur excellent, sa moralité irréprochable. Il disait souvent préférer l'entrée à Jérusalem du Christ monté sur un âne à celle du pape entrant à Rome chevauchant une jument. En revanche, il disait volontiers du mal des femmes, créatures comme des diables, tout en constatant de temps en temps que ces diables avaient du bon. Comme beaucoup d'hérétiques, il laissait de côté la Sainte Vierge. Ça, c'est une marque des hérésies, on met de côté la Sainte Vierge. Jean Hus prêchait à l'université de Prague. dévoilant les misères du clergé avec une ardeur sans limite. À plusieurs reprises, les autorités ont tenté de freiner ses paroles sans résultat. Il devait pourtant savoir que ce n'est pas en se fixant sur les défauts que l'on encourage les vertus. On lui demanda d'arrêter d'exercer son ministère dans ces conditions, mais il refusa. À sa décharge, il faut rappeler le désarroi de cette période où trois papes se disputaient le pouvoir et où se multipliaient les excommunications. Chaque pape excommuniant ce qu'il désirait. Un historien a dit à cette époque, tous les chrétiens étaient excommuniés au moins par un pape. Jean Hus disait, celui-là est hérétique qui est en contradiction formelle avec l'Écriture. Mais qui doit ou peut simplement juger de cette contradiction si ce ne sont les autorités revêtues d'une mission pouvant se réclamer de l'Évangile ? La plus évidente étant le tuus Petrus. Saint Augustin l'a dit clairement, je ne croirais pas à l'unité du Nouveau Testament si je n'y étais porté par l'autorité de l'Église catholique. De son côté, l'abbé Huvelin a dit, ce n'est pas à l'écriture détournée par la tradition, je dirais par une tradition, et interprétée par tel ou tel que je crois, mais à l'écriture interprétée par l'Église que je reste fidèle. Jean Hus s'appuyait sur la prédestination pour en conclure que, puisqu'on ne pouvait savoir qui était prédestiné, il était possible que le pape ne soit pas prédestiné, donc ne fasse pas partie de l'Église. Pour lui aussi, la papauté était une invention de Constantin. Dieu ne pouvait se donner de pire successeur. Dieu choisissant le pire, c'est nouveau. Pour lui, saint Paul faisait déjà partie de l'Église alors qu'il était... Saint Paul faisait déjà partie de l'Église alors qu'il était persécuteur, alors que tel évêque actuel n'en fait pas partie s'il doit mourir en état de péché. Tout le monde était visé, en particulier les princes, le gouvernement de l'Église devenait impossible. Je serais tenté d'ajouter « et la miséricorde devant tout cela ». Toutes ces propositions subversives ont eu pour résultat de le faire convoquer à conscience devant un tribunal. Il était quand même autorisé à dire la messe au début de son procès, mais en dépit de l'assistance de ses amis, il ne reconnut aucune de ses erreurs et finit par être dégradé puis condamné à être brûlé vif. Il montra dans son supplice un courage remarquable que le pape Pie II admirait 50 ans plus tard. Mentionnons que le supplice du bûcher était admis, quoique exceptionnel. Au cours du XVIe siècle, Calvin le réformé fit brûler Michel Servet en 1553. Jean Hus marque le début d'une époque bien trouble, qui fera l'objet des prochains exposés. L'époque dite des Lumières fut celle des brouillards et des ténèbres et de la renaissance des guerres idéologiques qui débouchèrent sur la trilogie du XXe siècle, Hitler, Staline, Mao. Au XVe siècle, des guerres civiles ensanglantèrent l'Europe centrale. D'une certaine manière, on peut dire que ces discussions font ressortir le caractère indispensable d'un timonier pour la barque de l'Église. Notre Seigneur l'a dit, tu es Pierre. Et paix mes agneaux, paix mes brebis. Il n'a pas promis à ses successeurs d'être personnellement irréprochables, mais de garder la voie droite. Les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vatican I, en 1870, a reconnu l'infaillibilité pontificale sur le plan essentiel, celui de la doctrine, de l'enseignement de la vérité. Des modifications purent intervenir sur le plan prudentiel. Nous citons que les exigences considérant l'abstinence du vendredi ou le jeûne eucharistique. Mais le pape reste le successeur de Pierre. Il reste le dernier juge des vérités de la foi, de nos critères de fidélité à l'Église du Christ. Ces deux personnages marquent un tournant dans les disputes théologiques. Dans la période byzantine, on discutait des personnes, de la nature du Christ, de sa divinité, de son âme. Il y avait les docètes, les monophysites, les ariens, les monothélites, les nestoriens, etc. À partir du XIVe siècle, c'est du côté de l'Occident que surgissent la plupart des hérésies, mais dans le domaine de la vie de l'Église et des fins dernières. On verra plusieurs familles de réformés et d'évangélistes. Cette crise se poursuit de nos jours. N'oublions pas que nous sommes dans l'année de la miséricorde.